André Ruiz. Retrouvez-moi chaque mercredi sur Altitude FM 93.5 pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur. Bienvenue dans Théâtralité.
Le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer du nord. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter des fleurs. Gentleman cambrioleur est un grand seigneur.
Aujourd'hui, nous reparlons théâtre. Maurice Leblanc a écrit de nombreux romans de sa collection Arsène Lupin et de nombreuses adaptations ont été portées à l'écran, au cinéma ou à la télévision. Mais il a peu écrit pour le théâtre. Alors, pour la dernière et dixième émission de la série Maurice Leblanc, Gentleman Cambrioleur, nous allons parler de son théâtre. On connaît cinq œuvres théâtrales de Maurice Leblanc. Arsène Lupin, pièce de théâtre écrite en collaboration avec Francis de Croisset en 1908. Une aventure d'Arsène Lupin, pièce de théâtre en 1911. Le retour d'Arsène Lupin, pièce de théâtre écrite également avec Francis de Croisset en 1920. Cette femme est à moi, en 1930, et Un quart d'heure avec Arsène Lupin, pièce de théâtre de 1932. Bonjour Françoise Bénard.
Bonjour André, bonjour à tous. Bonjour Philippe aussi.
Bonjour Philippe Merlan.
Bonjour Françoise, bonjour André, bonjour à tous.
Content de vous retrouver, merci d'être avec nous pour nous faire vivre les aventures d'Arsène Lupin au théâtre. Arsène Lupin, Nouvelles aventures, est une pièce de théâtre en quatre actes, de Francis de Croisset, et Maurice Leblanc, représenté pour la première fois le 28 octobre 1908 au théâtre de l'Athénée. Le rôle du Lupin était tenu par André Brulé. Le texte fut publié la première fois en un volume 12 de chez Lafitte en mai 1909. Les actes se passent successivement dans le grand hall d'un château, un grand salon d'un hôtel particulier, enfin un fumoir très élégant. Il n'y a pas d'entracte entre les deuxième et troisième actes. Germaine de Gournay-Martin, fille très snob d'une famille cossue qui vient de racheter le château de Charmeras, va enfin, après 7 ans de fiançailles, épouser l'ancien propriétaire des Argentés, Jacques, duc de Charmeras. Un fiancé peu empressé, mais tellement séduisant qu'il revient officiellement d'une expédition au pôle Sud. La conversation va rapidement tourner sur les récents exploits d'Arsène Lupin, qui n'a pas hésité à voler toutes les collections de tableaux de son futur beau-père, car le spectateur le soupçonne très vite. Charmeras et Lupin ne font qu'un. Le cambrioleur sera confronté au tenace limier Guerchard, qui a une revanche à prendre. Le policier n'hésitera pas pour cela à tenir en otage la secrétaire de Germaine, la belle Sonia Krichnoff, qui n'avait pas laissé le duc de Charmeras longtemps indifférent. Mais Lupin compte une alliée de taille, Victoire, sa nourrice toute dévouée, toujours prête, même pour des besognes les plus périlleuses. Voici l'acte 4, scène 3, Arsène Lupin et Victoire, sa gouvernante. Lupin, Philippe et Victoire, Françoise.
Victoire, ça va beaucoup mieux.
Hein? Oh, je sais bien. L'émotion. Tu veux te tuer. Puis tu es jeune, tu reprends le dessus. Et cette vie de menterie, de vol, les choses pas propres, ça recommence.
Oh, Victoire, la barbe. Hein?
Non, non, ça finira mal. Être voleur, c'est pas une position. Oh, quand je pense à ce que tu m'as fait faire cette nuit et la nuit d'avant.
Ah, ben parlons-en, oui. T'as fait que des gaffes.
Qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis honnête.
C'est vrai, mais je me demande même comment tu peux rester avec moi.
Ah, c'est ce que je me demande tous les jours, moi aussi. Mais je sais point. C'est peut-être parce que je t'aime trop.
Moi aussi, ma brave Victoire, je t'aime bien.
Puis vois-tu, il y a des choses qui s'expliquent pas. J'en parlais souvent avec ta pauvre mère. Oh, ta pauvre mère. Tiens, voilà ton gilet.
Merci.
Tout petit, tu nous étonnais. T'étais déjà d'une autre espèce. T'avais des mines délicates, des petites manières à toi. C'était autre chose. Alors tu pouvais pas cultiver la terre, n'est-ce pas? Comme ton papa qui avait les mains calleuses et qui vendait des betteraves.
Pauvre papa, va. N'empêche que s'il me voyait, ce qu'il serait fier.
À 7 ans, t'étais déjà mauvais garçon, faiseur de niche. Tu volais déjà.
Oh, du sucre.
Oui, bon, ça a commencé par du sucre, puis ça a été des confitures et puis des sous. À cette époque, ça allait. Un voleur tout petit, c'est mignon. Mais maintenant, 28 ans...
T'es crevante, Victoire.
Je sais bien. T'es pas corrompu, tu voles que les riches, t'as toujours aimé les petites gens. Ah oui. Pour ce qui est du cœur, t'es un brave garçon.
Eh bien, alors?
Tu devrais avoir d'autres idées en tête. Pourquoi tu voles-tu?
Tu devrais essayer, Victoire.
Oh, Jésus-Marie.
Je t'assure, hein. Moi, j'ai tâté de tout. J'ai fait ma médecine, mon droit. J'ai été acteur, professeur de jiu-jitsu. J'ai fait comme Guerchard, la partie de la sûreté. Quel sale monde. Puis je me suis lancé dans la société. J'ai été duc. Eh bien, pas un métier ne vaut celui-là. Même pas celui de duc. Que d'imprévus, Victoire. Comme c'est varié, terrible, passionnant. Et puis, comme c'est rigolo.
Non rigolo.
Ah oui, oui, c'est rigolo, oui. Les richards, les bouffis, tu sais, dans leur luxe, quand on les allège d'un billet de banque, la gueule qu'ils font. T'as bien vu, là, le gros gournet Martin, quand on l'a opéré de ses tapisseries. Quelle agonie, il en râlait. Et le diadème, dans l'affolement déjà préparé à Charmeras, puis à Paris, dans l'affolement de Guerchard, le diadème, je n'ai eu qu'à le cueillir. Et la joie ineffable de faire enrager la police. Et l'œil boui que fait Guerchard quand je le roule. Et enfin, contemple. Duc de Charmeras, ça mène à tout ce métier-là. Ça mène à tout à condition de ne pas s'en sortir. Ah, vois-tu, quand on ne peut pas être un grand artiste ou un grand guerrier, il n'y a plus qu'à être un grand voleur.
Non, tais-toi. Ne parle pas comme ça. Tu te montes, tu te grises. Et tout ça, c'est pas catholique. Tiens, tu devrais avoir une idée qui te fasse oublier toutes ces voleries. De l'amour, ça te changerait. J'en suis sûre. Ça ferait de toi un autre homme. Tu devrais te marier.
Oui, peut-être, oui. Ça ferait de moi un autre homme, oui. T'as raison. Hein.
C'est vrai, tu y penses?
Oui.
Oui, mais plus de blagues, plus de poulettes d'un soir, une vraie femme, une vraie pour la vie.
Oui, oui, oui.
C'est sérieux, mon petit. Tu as de l'amour au cœur, tu bon?
Oui, du vrai amour.
Ah, oh, mon petit, et comment est-elle?
Oh, elle est jolie, Victoire.
Ah, pour ça, je me fie à toi. Elle est brune, blonde?
Oui, blonde, blonde. Et mince, avec un teint à peine rose, l'air d'une petite princesse.
Oh, mon petit, et qu'est-ce qu'elle fait de son métier?
Ah, ben voilà, elle est voleuse.
Oh, Jésus-Marie.
Maurice Leblanc a écrit une nouvelle, L'arrestation d'Arsène Lupin, à la demande de Pierre Lafitte en 1905, sans prévoir de nouvelles aventures pour son héros. La nouvelle se termine sur l'arrestation du voleur. Le succès de son héros le pousse à prolonger ses aventures, mais c'est cependant la pièce de théâtre écrite en collaboration avec Francis de Croisset et jouée en 1908 à l'Athénée, à guichet fermé, qui va démultiplier le succès d'Arsène Lupin et le rendre populaire auprès de tous les publics. Une autre œuvre théâtrale, Une aventure d'Arsène Lupin, est une scénette de Maurice Leblanc, présentée du 15 septembre au 15 octobre 1911, au musical La Cigale, alors en vogue. Ce sketch fut intercalé dans la revue Elle a le sourire de Villeneuve. André Brulétin, de nouveau, le premier rôle après son interprétation d'Arsène Lupin dans la pièce de théâtre éponyme. La presse de l'époque fut chaleureuse à l'égard de cette pièce. Ainsi, Excelsior écrivait: l'acte de M. Maurice Leblanc est fort pittoresque et la nouvelle et fantastique histoire de Collier qu'il nous conte ne tardera pas à devenir populaire. Arsène Lupin se faufile en pleine nuit chez un bourgeois pour lui voler un collier de perles de grande valeur. À la suite d'une dénonciation, la police arrive sur les lieux forçant le cambrioleur à se cacher dans la maison. Enfermé avec la jeune fille de la maison, il tente de la séduire pour réussir son évasion. En voici un extrait. Marceline, fille de d'Imbleval, sculpteur, surprise par Arsène Lupin. Françoise et Philippe.
Taisez-vous, c'est moi.
Mais qui êtes-vous?
Ben mon... Attendez, n'essayez pas de comprendre, je vais vous expliquer. Et surtout, surtout, n'ayez aucune crainte. Je ne veux pas vous faire de mal.
Mais enfin, monsieur...
Plus bas, je vous prie. Il ne faut pas qu'on vous entende, ni qu'on m'entende. Pour des raisons très graves, il ne faut pas qu'on sache que je suis là auprès de vous et que je suis venu pour vous. Oui, pour vous. Ce soir, vous étiez au bal des Valtons très morts. Je vous ai vu. Oh, ça n'était pas la première fois. Je vous suis partout aux courses.
Aux courses? Mais je n'y vais pas.
Ah, si, aux courses dans les magasins. Et chaque fois que vous allez au théâtre.
Jamais.
Oh, je vous en prie, ne m'interrompez pas. Nous n'avons que 10 minutes et depuis si longtemps, je cherche une occasion de vous parler. Depuis bien plus que ça. Enfin, ce soir, il y a eu ce bal des Valtons très morts, qui sont mes amis. Une femme charmante, d'ailleurs. Tous les jours au cercle, son mari et moi...
Mais elle est veuve.
Oui, oui, depuis que son mari est mort, oui. Mais avant, il devait me présenter. Et je suis resté là... Bah vous regardez, oh, vous ne pouviez pas me voir. Je me cachais de vous, je suis horriblement timide. Comment vous aborder? Alors, j'ai pensé qu'ici, je suis venu au hasard. C'est comme ça que j'ai été pris au milieu de ce cambriolage. Ce soir, je voulais vous voir, vous parler, m'en aller aussitôt. Oui, m'en aller tout de suite, n'est-ce pas? Il ne faut pas qu'on me rencontre. Je vais partir par cette issue, il n'y a que celle-là de libre. Et tout de suite, vous comprenez, n'est-ce pas?
Non, je ne comprends pas. Je suis rentré avec mon père.
Eh bien...
Nous avons fermé. Alors, vous... Comment?
Eh bien voilà, ça n'a aucune importance.
Mais si, vous êtes venu avec cet homme.
L'homme Barbarousse?
Laissez-moi, je veux...
Où allez-vous? Oh pardon, je vous demande pardon. Pardonnez-moi, nom de Dieu. Ouais. Eh bien oui, je suis venu avec cet homme. Non, ne soyez sans crainte, je ne suis pas son complice. Oh non, un pareil gredin, le dernier des misérables, mais... Je connaissais son projet, j'en ai profité pour venir, je voulais emporter quelque chose de vous. Non, pas le collet, c'est lui qui l'a pris, je vous le jure. Mais autre chose, n'importe quoi, votre portrait... Oui, tenez, je l'ai pris, le voici, je vous le rends, vous voyez que je suis un honnête homme. Mais vous voyez... Mais je vous en prie, renvoyez-moi, mettez-moi à la porte, je vous en prie. Sans quoi je vous dirai des mots que vous ne devez pas entendre. J'aurais voulu me taire et je peux pas, je vous aime. Je ne pense qu'à vous, et c'est une telle joie que vous le sachiez et que vous ayez consenti à m'écouter. Et je vous dis tout, mon amour, ma peine infinie, mon chagrin de ne plus vous voir et mon dernier adieu. Puisque tout est fini, que c'est la minute, je ne sais plus ce que je dis, la minute horrible. Ah, je vous aime, donnez-moi la clé. Merci. Oh, merci. Merci, ouf, ça y est. Ah, oh, ne dites rien, je vous en supplie. Et pardonnez-moi, il y a la vie, vous ne pouvez pas savoir. Des circonstances qui vous poussent à droite, à gauche surtout. Et puis un jour, on se retrouve en face de deux yeux comme les vôtres, qui vous regardent. Alors...
Allez-vous-en.
Oh, je ne veux pas vous voler votre sympathie. Je ne veux pas vous laisser, je ne sais quelle image d'amoureux héroïque, oublier toutes les paroles que je vous ai dites. Ce sont des mensonges, un vilain rôle que je jouais.
Allez-vous-en.
Oh, que la vie est bête. Je me sens honnête à vous regarder. Il est temps que je m'en aille. Trop tard.
Quoi?
Mais vous voyez, il ne faut pas trop m'en vouloir si j'ai menti. Pour avoir cette clé, votre joli geste me l'a donné, m'a rendu sincère. La sincérité est un luxe. Voilà votre clé, je ne peux plus m'en servir.
Vous êtes fou. Il est temps encore. Ah mon Dieu, c'est vrai, j'entends...
Non, ce n'est rien. Ah, mais non, c'est la police.
Mon Dieu.
Le retour d'Arsène Lupin est une pièce de théâtre en un acte de Francis Croisset et Maurice Leblanc, paru dans les numéros... 177 du 15 septembre 1920 et 178 du 15 octobre 1920 de Je sais tout. Cette pièce, destinée au lever de rideau de Arsène Lupin, ne fut jamais représentée. En effet, craignant que cet acte nuise au déroulement de l'action par la suite, les auteurs renoncèrent à l'introduire et se résolurent à réécrire la pièce de 1908 sur de nouvelles bases. Elle fut rééditée dans un volume 1 de l'intégrale d'Arsène Lupin, dirigée par Francis Lacassin, aux éditions Robert Laffont, en 1986. Deux personnes distinguées parlent dans un élégant fumoir, Jacques de Brizailles et le riche Georges Chandou-Gérand. Ce dernier est fiancé à une amie d'enfance, Germaine d'Avremesnil, fille d'un ambassadeur dont la gouvernante n'est autre que la belle Sonia Krichnov. Il a fait appel au commissaire Guerchard car on lui a volé une bague. Il va apprendre successivement par ses amis qui arrivent l'un après l'autre qu'une missive d'Arsène Lupin a été publiée dans les principaux journaux. Cette lettre parle d'un diadème, cadeau d'un Raja du président de la République et rapporté de Bombay par son futur beau-père, mais que Lupin déclare vouloir s'offrir. Tandis que les divers personnages discutent de l'existence réelle de Lupin, on annonce un monsieur, un ami de monsieur Georges, le comte d'Andrézy. Voici un extrait, le retour d'Arsène Lupin, extrait de la scène 5. Germaine, fille de monsieur Gournay-Martin, et Georges Chandon-Géraud, Philippe.
Germaine, vous n'êtes pas honteuse ?
Non.
Vous n'avez rien pris, au moins ?
Si.
Comment si ? Germaine, rendez-moi mes lettres.
Jamais de la vie, par exemple. De qui sont-elles ?
Bah, de personne. D'un ami. Rendez-les-moi.
Si c'est d'un ami, je peux regarder.
Non.
Alors c'est une femme.
Ah, Germaine, vous êtes insupportable.
Mais m'aimez-vous, oui ou non ? De qui sont ces lettres ?
Germaine, c'est absurde.
Alors, vous gardez des lettres de femmes quand vous êtes fiancée ?
Eh bien, oui. Là. Ce sont des lettres de femmes.
Oh, c'est trop fort.
Oh, Germaine.
Ah, oh, je veux voir.
Oh, vous êtes bien avancée maintenant.
Elles étaient de moi. Mais il n'y a pas que des lettres.
Germaine, non, pas ça, non.
Un de mes mouchoirs, un ruban, une plume de mon éventail.
Dans ma situation, un diplomate, Germaine, je ne veux pas, je ne veux pas.
Oh, que c'est orgueilleux, un homme. Georges, vous ne m'aimez pas.
Et vous ?
Moi non plus.
Alors on s'embrasse.
Oh, devant Sonia ?
Oh, elle fouille dans la bibliothèque.
Vous venez goûter tout à l'heure ?
Vous ne le méritez pas.
Allons donc ! Je vous ai fait une scène, nous ne sommes pas encore mariés. Vous êtes ravis. Sur ce, je vous rends à vos invités. Ne dites pas à papa que je suis venue.
Oh, il serait infiniment mécontent.
Tu parles ! Et ce n'est pas le moment, il est dans des états de nerfs.
Ah. Cette plaisanterie, la lettre d'Arsène Lupin l'aurait-elle affectée ?
Oh, pour ça, non ! Il ne croit pas à Lupin, papa. C'est un esprit fort.
Et qu'il y a de ça de sa fille ?
Certainement. Ah, dites donc, vous allez me donner une parole d'honneur.
À propos de quoi ?
Vous ne direz à aucun de vos invités que je suis venue. Au fond, ce n'est pas convenable.
J'ai entendu.
Même au beau d'Andrézy. Vous savez que Sonia est folle de lui. Goodbye, you.
Goodbye, you.
Le personnage d'Arsène Lupin a connu rapidement une carrière internationale au cinéma. Ainsi, 3 ans après l'apparition de sa première histoire, le cinéma américain adapte déjà ses aventures dans le court-métrage « The Gentleman Burglar » réalisé par Edwin Stratton Porter. En Allemagne, Arsène Lupin affronte Sherlock Holmes en 1910 par Viggo Larsen. En France, c'est le réalisateur Michel Carré qui adapte les aventures de Lupin en 1909, puis de nouveau en 1914. Le Gentleman Cambrioleur apparaît ensuite en Angleterre en 1916, en Hongrie en 21 et au Japon en 23. Plus près de nous, en 1957, Robert Lamoureux interprète le Gentleman Cambrioleur dans la superproduction française « Les aventures d'Arsène Lupin » réalisée par Jacques Becker. Ce film est un succès en salle et entraîne une suite réalisée par Yves Robert 2 ans plus tard, signée Arsène Lupin, qui fait intervenir plusieurs personnages issus des romans de Leblanc. Isidore Beautrelet, de l'Aiguille Creuse, l'inspecteur Théodore Béchou, de l'agence Barnett et compagnie. Un troisième volet sort en 62, Arsène Lupin contre Arsène Lupin, d'Edouard Molinaro, qui met cette fois en scène les 2 enfants du gentleman cambrioleur, incarnés par Jean-Claude Brialy et Jean-Pierre Cassel. Arsène Lupin disparaît alors du grand écran pendant plus de 40 ans et ne revient qu'en 2004 dans une adaptation française de La Comtesse de Cagliostro qui dévoile les origines de Arsène Lupin joué par Romain Duris. En voici un extrait avec Françoise, la comtesse et Philippe, Raoul d'Andrézy alias Arsène Lupin. La Comtesse de Cagliostro, un amour impossible, 2 volontés qui s'opposent. Voici l'extrait. De chapitre 8. La guerre était déclarée et elle l'était au moment choisi par Raoul alors qu'il avait toutes les chances pour lui et que Joséphine Balsamo, prise au dépourvu, faiblissait sous une attaque qu'elle n'aurait jamais supposée aussi violente et aussi implacable. Bien entendu, Une femme de sa trempe ne pouvait que consentir à la défaite. Et elle voulut résister. Elle n'admit pas que le tendre et délicieux amant, qu'était Raoul Andrézy, fût ainsi de premier coup s'ériger en maître et lui imposer la dure étreinte de sa volonté. Elle recourut aux câlineries, aux pleurs, aux promesses, à tous les artifices de la femme, et Raoul se montra sans pitié.
Tu parleras, j'en ai assez des ténèbres. Tu peux t'y complaire, moi pas. Et il me faut la grande clarté.
Mais sur quoi? Sur ma vie?
Ta vie t'appartient, hein. Cache ton passé, et si tu as peur de l'étaler sous mes yeux. Je sais bien que tu resteras toujours une énigme pour moi et pour tout le monde, et que jamais ton pur visage ne me renseignera sur ce qui s'agite au fond de ton âme. Mais ce que je veux connaître, c'est le côté de ta vie qui touche à la mienne, tu vois. Nous avons un but commun. Montre-moi le chemin que tu suis, sinon je risque de me heurter au crime, et je ne veux pas. Tu entends, Josine? Je ne veux pas tuer. Voler, oui, cambrioler, soit, mais tuer, non. Mille fois, non.
Je ne le veux pas non plus.
Peut-être, mais tu fais tuer.
Mensonge?
Alors parle, explique-toi.
Je ne peux pas. Je ne peux pas.
Mais pourquoi? Qui t'empêche de m'apprendre ce que tu sais de l'affaire? Ce que t'as révélé, Beaumagnan?
J'aimerais mieux ne pas te mêler à tout ça, ne pas t'opposer à cet homme.
Tu as peur d'homme pour moi? Peut-être, c'est ça, le beau prétexte. Rassure-toi, Josine, je ne te crains pas. Je ne crains pas, Beaumagnan. Il y a un autre adversaire que je redoute bien plus que lui.
Qui?
Toi, Josine, oui, et c'est pour cette raison que je veux la lumière. Quand je te verrai bien en face, je n'aurai plus peur. Es-tu décidé?
Non.
Non. C'est-à-dire que tu te défies de moi? L'affaire est belle. Tu veux la garder tout entière, soit. Partons. Dehors, tu jugeras mieux la situation.
Arrête! Que veux-tu savoir?
Tout. Et d'abord le motif de ta présence ici, et la raison pour laquelle ce misérable a tué Brigitte Rousselin.
Le bandeau de pierreries.
Non, non, pas de valeur, ce sont des pierres quelconques. Faux grenat, fausse topaze, béryl, opale.
Oui, mais il y en a sept.
Et après, devait-il la tuer? C'était si simple d'attendre et de fouiller les chambres à la première occasion.
Évidemment, mais il paraît que d'autres étaient sur la piste.
Raoul éprouva un sentiment profond d'orgueil. Pour la première fois, il prit conscience de l'ascendant qu'il exerçait sur les autres, et de la puissance vraiment extraordinaire avec laquelle il imposait ses décisions. Entre-temps, les aventures du gentleman cambrioleur se poursuivent sur le petit écran. Une première série québécoise voit le jour en 1960 avec Jean Gascon dans le rôle titre, et c'est surtout l'acteur Georges Descrières qui incarnera le plus auprès du public le personnage entre 1971 et 1974, et notamment grâce au succès du générique de la série chanté par Jacques Dutronc. En 1980, une nouvelle série, Arsène Lupin, joué père, adapte 813 avec Jean-Claude Brialy dans le rôle de Lupin. Puis, dans les années 1990, François Dunoyer incarne le cambrioleur dans deux nouvelles séries. La série Lupin, sous-titrée « Dans l'ombre d'Arsène », est une série télévisée française créée par Georges Kay et François Usan et diffusée à partir du 8 janvier 21 sur la plateforme Netflix. Elle s'inspire de l'univers et du personnage d'Arsène Lupin à travers les aventures d'Hassane Diop, interprété par Omar Sy. À bien des égards, Arsène Lupin apparaît comme un héros éminemment français, un des derniers héros d'aventure incarnant une attitude chevaleresque, à l'instar de ses prédécesseurs D'Artagnan, Gavroche, Cartouche ou Rocambole. Maurice Leblanc attribue à son héros les vertus françaises qui tiennent, selon lui, en grande partie à la gaieté, à l'art de la répartie et de la théâtralité. Ainsi, en volant avant tout par goût de l'éclat, Arsène Lupin apparaît comme un des émissaires du panache à la française, une figure du bandit romantique qui fascine les lecteurs. Merci Françoise, merci Philippe, et à très bientôt pour de nouvelles lectures. Notre émission est maintenant terminée. Voici la citation du jour. La hache tournoie dans l'air qui frémit, mais l'aile s'ouvre et l'on va jusqu'à Dieu. Elle est de Maurice Leblanc dans Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur. Vous retrouvez le podcast de cette émission sur le site de la radio altitudefm.com et toutes ces informations et bien d'autres sur le site de l'Union Régionale fncta-midipi.fr. Si vous souhaitez me contacter, voici mon adresse mail ou mon téléphone que vous connaissez. Allez voir le théâtre amateur, c'est du théâtre de qualité joué, mis en scène, éclairé et sonorisé par des passionnés de théâtre. C'était Théâtralité, l'émission du comité départemental FNCTA de la Haute-Garonne, l'émission qui parle du théâtre amateur. N'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 12h30 sur Altitude FM 93.5. Bonne journée à tous et à mercredi prochain. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.